De la belle visite ce matin en studio. On aime beaucoup lorsqu'il passe nous voir. Monsieur Jonathan Julien est avec nous, député de Charlebourg, ministre responsable des infrastructures et de la capitale nationale. Monsieur Julien, bon matin.
Bon matin, comment ça va?
Ça va très, très bien. On s'en jasait justement là, pendant la pause. Tout va bien, il fait beau soleil, c'est la fête des mères en fin de semaine.
C'est une belle journée.
On va bien le prendre, hein?
Oui, ça va être un beau week-end, franchement.
Est-ce que quelques jours de repos sont nécessaires peut-être pour vous?
Mais c'est sûr que c'est une période intense, mais on en a souvent, mais ça va faire du bien quand même, une fin de semaine là, avec nos proches, avec ma mère, donc on va en profiter.
Grosse journée hier, vous avez présenté le projet de loi 62. Pour les gens qui n'auraient pas vu ça passer, qui n'ont pas décidé d'ouvrir, je ne sais pas moi, site de médias ou feuilleter le journal, expliquez-nous donc c'est quoi le projet de loi 62.
Ben, le projet de loi 62, c'est le fondement de la stratégie des infrastructures québécoises. C'est la réforme de la façon qu'on va travailler pour faire les infrastructures publiques au Québec. C'était nécessaire. Vous le savez, on investit de plus en plus dans nos infrastructures. Moi, je m'occupe du plan québécois des infrastructures, le fameux PQI. Ça, c'est tous les investissements du gouvernement du Québec, transport, éducation, santé. 153 milliards sur 10 ans qu'on a dans cette enveloppe-là. C'était 100 milliards il y a 5 ans. Donc, on investit beaucoup plus parce qu'on devait faire du maintien d'actifs. Nos écoles étaient désuètes. On doit faire de la bonification, ajouter des centres hospitaliers, de nouvelles écoles, comme ici à Charlebourg, école primaire, école secondaire, mais partout au Québec. Alors oui, on accentue en fin de compte la construction d'infrastructures. Et ce qu'on observe, c'est que le marché est en surchauffe, vous le savez. Si vous faites des travaux à la maison, vous le vivez également. Alors, il y a de l'inflation, il y a des enjeux de main-d'œuvre. Alors, ce qu'on a déposé hier, c'est une façon de faire en sorte qu'on puisse réaliser les projets plus rapidement, jusqu'à 25 % et pour moins cher, 15 % Donc, c'est la stratégie 17 mesures qui va nous permettre, justement, comme gouvernement, que chaque dollar investi puisse en donner plus.
Dans le concret, êtes-vous, et évidemment, la réponse va être oui, M. Gelin, mais dans le concret, très confiant que justement, parce que c'est très noble comme initiative, moins cher, plus vite, êtes-vous confiant que concrètement, c'est ce qu'on va voir?
Oui, mais je suis très confiant. C'est-à-dire que dans la dernière année, moi, j'ai travaillé avec Sonia Lebel. Alors, Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, puis moi, je travaille au Trésor, mais volet infrastructure. Alors, on a trouvé l'équilibre entre, comme gouvernement, avec les deniers publics, il faut toujours s'assurer de la transparence, l'intégrité et l'équité. C'est pas la même chose, par exemple, que dans le domaine privé. Pas qu'ils le font pas, mais nous, on doit le démontrer en plus. Alors, on a trouvé l'équilibre en allant le plus loin possible. Mais quand on me demande, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que c'est pas un rêve, ce Jonathan? Ben voyons donc. Bon, on a fait un projet pilote en parallèle, c'est-à-dire qu'on a testé les mesures qu'on a à l'intérieur de notre stratégie, tant en termes de planification qu'en termes de réalisation. On a fait 12 écoles secondaires. Puis là, les gens disent, ouais, mais c'est pas des grands projets. Écoute, une école secondaire, c'est rendu à 200 millions de dollars. Là,
donc,
ça commence à être des
plus de la petite gomme. Là,
non, ça commence à être des projets assez d'envergure. Et on a appliqué les mesures de la stratégie, c'est-à-dire le mode collaboratif, puis on reviendra, sur 4 de ces écoles secondaires-là. Puis sur les 8 autres, on a fait le mode traditionnel. Et on a observé, pour ces écoles-là, une réduction de 18,2 % du coût et le délai de 24,6 % Et je vous le dis, là, si on va visiter ensemble deux écoles secondaires, là, elles sont aussi belles, aussi fonctionnelles.
Même résultat.
Même résultat. Alors, ça nous a permis, justement, avec un projet pilote, avec deux mesures étalons comparables, de démontrer que qu'est-ce qu'on met en place, à la fois en termes de rapidité, mieux planifié, plus rapidement on s'assoit avec les professionnels, avec les entrepreneurs pour faire de la co-gestion. On collabore, on bénéficie de nos expériences mutuelles. On livre plus vite et moins cher. C'est ce qu'on met en place.
On entend souvent que le gouvernement, c'est une grosse machine, puis que c'est long. Puis là, je sais que ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Mais comment on va faire, justement, pour faire en sorte que ça ne soit pas long de l'appliquer sur le terrain?
Bien, c'est-à-dire que la stratégie, elle, est essentiellement basée sur des changements de règlement de loi, la loi que j'ai déposée hier, la loi 62, là, avec ma collègue Sonia Lebel, et de directives. C'est-à-dire qu'on vient, on a levé toutes les pierres de... Si on veut aller plus vite, qu'est-ce qu'on devrait faire? On a identifié les éléments avec le marché. Là, on a fait une centaine de rencontres avec des universitaires, l'industrie, avec les autres professionnels. Ils nous ont tous dit qu'est-ce qui était bloquant. Puis là, on a levé toutes les pierres pour dire, nous autres, jusqu'où on peut aller pour lever ces barrières-là? Alors, ça veut dire que quand la loi va être adoptée le plus tôt possible, souhaitons-le, puis les règlements là, sont déjà en cours d'adoption, bien, déjà, on va pouvoir dire, on a un cadre légal qui est beaucoup plus efficient. Puis, pour que les gens le conçoivent mieux, là, les deux premières phases, là, c'est la planification. Je vais donner des exemples pourquoi on va être meilleur. On n'avait pas mesuré la capacité régionale au Québec de construire. C'est-à-dire que quand on fait des projets, il y a de la main-d'œuvre, il y a des entrepreneurs dans chacune des régions du Québec. Mais si Bernard Drainville décide de bâtir deux écoles secondaires dans une région, en même temps que Christian arrive avec un centre hospitalier, puis que Geneviève Guilbeault arrive avec un projet majeur d'infrastructure routière, puisque c'est chacun des secteurs qui planifie, la tour de contrôle va venir dire, écoutez, là, vous arrivez au même endroit en même temps, il n'y a pas de capacité de main-d'œuvre, ou oui, peut-être qu'il y en a, et les entreprises, il n'y a pas de capacité où il y en a. Donc déjà, d'avoir la capacité par région, ça va faire en sorte qu'on ne fera pas l'erreur de venir bousculer trop de projets dans une même région s'il n'y a pas de capacité. Déjà ça, ça va favoriser la concurrence et la rapidité. L'autre élément, maison des aînés, école secondaire. Le choix qu'on fait, une gestion par programme qu'on appelle, c'est on regroupe 12 écoles secondaires, on fait un seul dossier d'affaires pour approbation. Donc, ce n'est pas tout le monde qui fait le chemin à l'intérieur de la gouvernance.
Il n'y a pas 12 appels d'offres différents.
Non? Après ça, on lance ça dans le marché, ça donne quoi? De la prévisibilité. Ça permet de faire du préfabriqué aussi, parce que soudainement, les entrepreneurs regardent ça et disent « OK, j'ai un bassin beaucoup plus large, donc je peux prendre des mesures plus efficientes. » Alors, c'est tous ces gestes-là, il y a 17 mesures, quand on les additionne à la planification, puis quand on change de mode de réalisation, parce que le mode traditionnel, là, pour faire ce cours, c'est « Je te dis, voici l'école que j'ai besoin, et je la mets sur le marché. Si. Tu dois produire exactement ce que je t'ai demandé. Tu es dans une chape de plomb, tu es coincé là-dedans, tu vois tous les risques, tu les additionnes, puis tu me factures. On paye toujours trop cher.
Si je dis, en raison que c'est l'entrepreneur qui assume ce
qui assume le risque et surtout qui ne peut pas amener de valeur ajoutée dans ce qu'on va produire. Ouais. Si plutôt je dis, j'ai besoin d'une école secondaire, voici mes besoins, clairement, le nombre de classes, les superficies, voici les enjeux que j'ai, je le mets sur le marché. Là, je qualifie des entrepreneurs, des professionnels, puis on travaille ensemble, hein, c'est quoi la solution optimale? Ils vont me proposer des matériaux peut-être que je n'aurais pas pensé, peut-être une structure que je n'ai pas pensé. Je vais bénéficier de ces échanges-là. Puis je vous le dis.
Comme une designer à maison.
Ben, c'est pareil. On fait ça naturellement chez nous. Je veux dire, si je veux refaire ma cuisine, puis je dis, ah, j'aimerais ça que ce soit dans le blanc, peut-être quelque chose de noble, ben, la personne arrive. Si j'ai déjà tout dit ce que je voulais, puis je l'oblige à faire ce que je voulais exactement, même si je ne suis pas sûr, ben, la personne va dire, OK, ça coûte cher. Mais si elle me dit, écoute, tu voulais avoir des comptoirs de telle nature, mais as-tu pensé que ça ici, c'est moins dispendieux, c'est plus durable, puis c'est plus beau? Puis là, soudainement, on est en échange collaboratif. On va trouver la solution optimale pour répondre à mon besoin. C'est ce que le gouvernement ne faisait pas. On payait trop cher. Donc, il faut amener ça, puis ça n'amène pas plus de risques. Ça diminue le risque.
Monsieur Julien, le projet de loi 62, c'est plus rapide, c'est moins cher. Est-ce que ça change la relation de travail que vous avez avec les différentes villes?
Ben, là, c'est deux choses. C'est-à-dire que le projet de loi 62 vise, je vais rentrer dans un petit peu de technique, c'est la loi sur les contrats d'organismes publics, la LCOP, et la loi sur les infrastructures publiques, la LIP. Et ça, c'est des lois qui touchent essentiellement les ministères et organismes assujettis, pas les municipalités. Naturellement, les municipalités, eux autres, c'est la loi des cités et villes et la loi des sociétés de transport. Mais ce qu'on amène comme approche ici, je discute avec André Laforêt, ministre des Affaires municipales, c'est des approches qui sont probantes pour aussi des dossiers avec les villes. Donc, on va voir comment qu'on peut éventuellement prendre ces éléments-là pour les appliquer à certaines municipalités. Okay. Encore là, il y a une complexité derrière ça. Au gouvernement, on a la Société québécoise des infrastructures, le ministère des Transports, c'est des grands donneurs d'ouvrage avec beaucoup d'expertise. Ouais. Ces recettes-là nécessitent une culture et beaucoup d'expérience, donc... Ça va dépendre aussi de la nature des villes, leur grosseur, mais on va se pencher là-dessus.
Parce que du cas par cas. Là.
C'est ça, parce que c'est du bénéfice. Là. Ouais. Clairement, là, cette approche-là, elle est démontrée ailleurs. On va aller plus vite et moins cher.
Au Québec, dans la dernière vingtaine d'années, il y a eu un certain historique de gouvernement un peu trop de chemin avec certaines entreprises, disons-le comme ça.
Je me souviens de ça.
dans ce projet de loi-là, ce qu'on veut faire, entre autres, c'est inclure davantage les entreprises privées dans le début des projets. Est-ce qu'il y a un certain risque, puis il va falloir y aller d'une surveillance pour éviter qu'il y ait des liens trop grands ou douteux qui se créent avec certaines entreprises, ou de ce côté-là, ça change absolument rien?
Mais je suis content de cette question-là. C'est une excellente question, Maxime. Parce que j'entends ça, puis ça cause que c'est complexe, puis il y a une espèce d'incompréhension. Puis je vous dis, là, au contraire, il n'y a pas plus de risque de collusion. C'est-à-dire que quand on lance un processus en collaboration, il y a un comité de sélection qui est mis en place, qui est totalement indépendant. À la distinction près qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est on regardait le prix et les compétences. Bon. Là, on s'assoit, ce comité-là, qui est indépendant, s'assoit avec les consortiums, c'est-à-dire professionnels, architectes, ingénieurs et entrepreneurs. Il y en a plusieurs groupes qui se présentent. Et là, l'évaluation, et c'est filmé en plus souvent, et là, l'évaluation se base sur l'expérience, la compétence, le fait qu'ils soient complémentaires pour être qualifiés. C'est-à-dire que ça reste un appel d'offres public où les consortiums doivent, par entrevue et par CV, démontrer que c'est le meilleur consortium pour aller de l'avant avec nous pour la suite. Donc, il n'y a pas de copinage. Le comité est indépendant, puis les critères sont très prescriptifs. Mais on n'y va pas seulement sur le prix, parce que c'est l'erreur qu'on fait. On voit dans certaines infrastructures qu'il n'y a pas eu de soumissionnaire. Pourquoi? Parce que l'industrie prend tout le risque. Alors, soudainement, les entrepreneurs ont de la difficulté à se financer. Parce qu'après ça, quand ils se retournent de bord pour se faire financer, ils disent « Ces projets-là, tu prends bien trop de risques. » Et ce qui fait en sorte qu'on a très peu de consortiums qui déposent actuellement dans des projets complexes et majeurs parce qu'on met une barrière à l'entrée. Puis nous, on veut l'ouvrir, on veut avoir plus de concurrence, puis on veut payer moins cher.
Vous êtes aussi ministre de la Capitale-Nationale. Je voudrais qu'on jase un peu de la belle région de Québec que
oui,
j'adore.
Oui.
En fin de semaine, travaux sur le pont Pierre-Laporte, pont de Québec fermé. Le week-end dernier, bouchon de circulation de 14 km. Et là, ben, tout le monde dit, ben, coudonc, on est rendu à un troisième lien. Vous en pensez quoi?
Ben, écoutez, aïe, aïe, aïe.
Je m'excuse pour la question.
Ah, mais c'est bien correct. Hey, écoute, puis j'ai des réponses à cette question-là. Là. on attend ces DPQ infra là, au mois de juin, puis on l'attend impatiemment. À la fois, là, le mandat était clair. Là, c'est un réseau structurant, la mobilité inter-rive. Alors, ces deux éléments-là, ça va être déposé en juin. Puis on n'a pas l'intention de laisser dormir ce rapport-là. Là. On va en prendre acte, puis on va agir rapidement. Naturellement, les travaux que vous mentionnez, à la fois sur le pont de Québec, bien, c'est les travaux qui sont nécessaires, qui sont planifiés. Ma collègue Geneviève Guilbeault a bien énoncé, elle a fait aussi des présentations avec ses équipes pour les enjeux que ça l'amène. On essaie de réduire au maximum les impacts, mais il y a des impacts. Là. Ces deux liens-là ont besoin de beaucoup d'amour. Là, on est content de voir que le fédéral... semble avoir oui. réglé le dossier avec le CN. D'ailleurs, je tiens à saluer Jean-Yves Duclos. Moi, je me souviens, en 2015, là, j'étais élu municipal, puis déjà, on parlait du pont et du transfert au fédéral. Donc, c'était une course de longue haleine. Je sais que Jean-Yves a travaillé très fort. Alors, on est heureux de ça, puisqu'on doit assurer la pérennité de ce joyau. Mais vous avez parfaitement raison. Il y a des travaux à faire. Ils sont bien planifiés, ils sont bien communiqués. Mais force est de constater que ça a des impacts sur la fluidité inter-rive. Là, on ne se le cachera pas.
Il y a beaucoup de gens qui ont une petite crainte au niveau de la sécurité, justement, des deux pontes. Ils disent, il y a tellement de travaux, tout le kit. Vous en pensez quoi, vous,
non,
de ça?
Non. Écoutez, côté sécurité, il n'y a aucun enjeu de sécurité. Le ministère des Transports font des vérifications, mais juste des travaux de resurfaçage, rien que le tablier du pont de Québec, c'est des travaux majeurs. Là. Donc, ce n'est pas une question de structure. C'est sécuritaire, c'est vérifié, c'est validé, n'hésitez pas à traverser.
Jonathan, Julien, je sais que vous êtes attendu ailleurs, mais pas le choix de terminer la discussion en vous demandant comment se passent vos relations avec nos maires, le maire Marchand et le maire Labombe?
Ben, le maire Labombe, je...
Labombe?
Hey, j'ai-tu dit Labombe?
Le maire Labombe, on se voit pas régulièrement, non. Bien honnêtement.
Je l'ai dit, le maire Le Houllier, méchant là-dessus.
Ça va très bien, écoutez... Quand je suis arrivé en fonction, là, maintenant, ça fait presque deux ans, un an et demi, moi, j'ai toujours dit, là, puis je l'ai dit à Bruno, là, je me suis assis, puis on se voit régulièrement, Bruno et moi, c'est on ne sera pas toujours d'accord, mais il faut toujours que nos liens de communication soient maintenus de manière là, authentique et directe. On se parle au moins une fois par semaine. Quand il y a une sortie de notre part qui ne fait pas son affaire, il m'appelle, puis on discute. Parce qu'à la fin, on ne peut pas être toujours d'accord. Mais si on ne communique pas ensemble, si on ne se parle pas, si on ne convient pas du pourquoi, bien là, soudainement, on se braque et il n'y a rien de pire que couper des liens. Mais honnêtement, ma relation est très bonne avec le maire Marchand. Le maire Le Houllier, c'est sûr que c'est plus mon collègue Bernard Drainville, mais quand je le crois, ça va très bien. Puis il faut maintenir ça. Alors oui, on a des enjeux, mais je réitère, là, puis je le dis depuis le début, la collaboration, là, c'est ça qui va nous faire avancer parce que la confrontation, ça mène nulle part. Et j'ai une très bonne relation de collaboration avec le maire Marchand.
Avez-vous croisé récemment le maire Labombe? Non, c'est une joke.
Non, j'espère qu'il va bien.
Ouais, rapidement, mais auriez-vous que le maire Marchand sorte moins des médias, par exemple?
Ah!
Tu sais, parce ben que non, ça crée pas une bonne relation.
Ben, je peux pas dire ça. Moi, je pense que les choses doivent être dites. Puis à la fin, il y a des choses qui sont dites. Puis je suis sûr que c'est la même chose pour lui quand dans certaines situations qui font pas l'affaire d'un et de l'autre. Mais pour moi, c'est correct. Parce que quand on est un élu, quand on est public, puis quand je viens vous voir ici ce matin, puis je m'en vais faire une autre entrevue tantôt, ben notre rôle aussi, c'est de communiquer, puis de parler aux gens. Alors, puis c'est les médias qui nous font l'intermédiaire là, efficace. Donc, non, moi, je peux pas reprocher au maire Marchand d'être sur les médias.
Jonathan Julien, toujours un plaisir lorsque vous passez nous voir pour une petite jasette ici en studio à Rage Against le matin, boulevard 102. Merci pour ça ce matin. On vous souhaite une magnifique fin de semaine puis une bonne fête des mères aussi.
Bonne fête des mères, tout le monde. Bonne fin de semaine, messieurs. Toujours un plaisir.
Salut, bon week-end.
Merci, M. Julien. Rage.